Orient Extrême. L'actualité asiatique vue par Adextra, première plateforme de l'action missionnaire en Asie. Une émission présentée par Joseph Saunier.
Le totalitarisme est une grande machine à détruire. Un moyen pour l'État de contrôler, d'humilier et de détruire des vies humaines. Amis auditeurs, bonjour. Cette citation de Vaclav Havel résume bien la nature du régime de Pol Pot au Cambodge, qui a cherché à imposer une idéologie de pureté révolutionnaire en détruisant toute forme de culture, de religion et de structure sociale. Saint Jean-Paul II l'exprimait ainsi. Le communisme, en tant que système, a porté une atteinte profonde à la dignité humaine. Il a opprimé la liberté de l'homme en déniant sa capacité à agir selon sa conscience. Entre 1975 et 1979, le régime des Khmers rouges tuera près de 2 millions de personnes, soit un quart de la population. Faisons aujourd'hui mémoire de ces années effroyables qu'a connues le Cambodge. Amis auditeurs, vous êtes bien sûr Orient Extrême, l'émission des missions étrangères de Paris qui vous plonge au cœur de l'Asie sur Radio Notre-Dame et RCF. J'accueille aujourd'hui sur mon plateau Riti Pan. Bonjour Monsieur Pan.
Bonjour.
Riti Pan, vous êtes d'origine cambodgienne et vous avez donné votre vie pour que le monde n'oublie pas ce génocide. Vous êtes cinéaste, écrivain et vous revenez en 2025 avec la réédition d'un livre bouleversant co-signé avec Christophe Bataille appelé « L'élimination » aux éditions Grasset. Dans ce livre, vous questionnez un des grands responsables de la machine de mort Khmer Rouge appelée Douche tout en livrant votre témoignage personnel. Riti Pan, j'aimerais revenir à ce 17 avril 1975, date à laquelle la capitale du Cambodge tombe aux mains de Pol Pot. Vous n'avez alors que 11 ans et une nouvelle ère se profile. Que se passe-t-il pour vous et pour votre famille ?
C'est un moment où c'est le début, quoi. Le début de désintégration de notre famille. C'est les premières séparations entre moi et mon frère, qui reste toujours porté disparu, avec mon beau-frère, avec les amis. Mais bon, c'est le destin de pas mal de Cambodgiens. C'est un moment un peu assez spécial, parce que à la fois, je vois les choses très justes, je me souviens des choses vraiment très, très justes, très en détail, et à la fois une sorte de nuage autour, de silence plutôt, comme si je ne vois mais j'entends pas, ou j'entends, je ne vois pas. C'est un va-et-vient avec... ça apparaît de temps en temps dans ma vie, quoi. Même, ça peut m'arriver la nuit, ça peut m'arriver même quand je marche dans la rue. Donc voilà, je crois que c'est normal, j'ai appris à vivre avec cette histoire difficile, parce qu'on parle là quand même de crimes de masse, ou crimes génocidaires. Ça va au-delà de tuer, c'est la destruction. D'ailleurs, les Khmer Rouges eux-mêmes, ils disent pas tuer, ils disent comme tech, c'est réduit à la poussière. Donc, ça touche l'humain, ça touche sa dignité, tout ce qui est peut-être le plus beau, le plus essentiel dans chaque humain, le spirituel, par exemple. Donc c'est ce qui peut oublier, c'est très bien. Il faut croire en la vertu de l'oubli. Et ceux qui ne peuvent pas, bon, il faut leur répondre, il faut leur apporter un moyen de comprendre ou de qu'ils puissent s'approprier et réfléchir sur leur propre histoire. D'où voilà ce long travail cinématographique aussi bien que d'écriture. Je crois que j'ai affaire qu'avec un, deux films, ça suffisait, mais bon, ça, ça me prenait plus de temps. Voilà, vous voyez, c'est ce que je sais du 17 avril, c'est beaucoup de silence, beaucoup de séparation, puis après, beaucoup de morts, beaucoup de combats, beaucoup de désolation, de sorte de forme d'infini chagrin. Et qu'est-ce que tu peux faire avec tout ça? Non. Et voilà, ça m'a pris du temps, mais c'est pour ça que je pense que c'était pas, quand on parle de devoir de mémoire, par exemple, c'est pas un devoir, c'est pas un devoir. Devoir, ça fait obligation, ça fait très moral, très... Moi, je considère comme un travail de mémoire qui a pris du temps, et que si ce travail sert à quelque chose, tant mieux. Parce que encore une fois, il s'agit pas seulement du crime contre le peuple khmer, le peuple cambodgien, mais contre l'humanité. Quoi. Ça veut dire ce que ça veut dire, crime contre l'humanité.
Très rapidement, tout bascule. Les révolutionnaires vident la capitale. Vous et votre famille, vous devez partir. Vous êtes déracinés. Est-ce que vous savez que à ce moment-là, l'histoire bascule?
Non, personne ne peut imaginer. Je crois dans tous les génocides, comme ça, personne ne peut imaginer que vos semblables peuvent aller si loin. Quoi. Donc pour nous, c'était on quitte la ville. Les Khmer Rouge nous a dit qu'il y a une opération nettoyage, tout à fait normal. Mais les 2-3 jours qu'on doit quitter la ville, ça devient 2-3 semaines, puis 2-3 mois, puis ça fait presque 4 ans, quoi. Avec chaque jour, comment dire, beaucoup de règles, beaucoup de... La société est devenue une sorte de... Ils ont militarisé la société, quoi. C'est plus de famille, quoi. C'est plus de villas, c'est des unités, c'est des groupes, c'est l'unité d'enfants. Les gens vivaient séparément, quoi. Les enfants avec les enfants, les hommes et les hommes, les femmes et les femmes, les grands-parents et les grands-parents. Donc tout est morcelé. Et on est éparpillés partout. Et c'est difficile pour un homme, une femme, de se révolter dans cette condition, de cet déracinement social, culturel. On peut pas, je crois, je sais plus qui a dit que on peut transformer, je crois, c'est Primo Levi, ou Charlotte Delbault, je m'en souviens plus, qu'on peut transformer un être humain en loc. Très rapidement, quoi.
Le régime l'avait planifié, ce déracinement. Est-ce que vous diriez que c'est ça, finalement, qui était le plus inhumain, qui coupait les gens les uns des autres, les déraciner de l'endroit dans lequel ils ont vécu?
Non, tout cela, c'est... En fait, il faut... Dans chaque génocide est animé par différentes idéologies. Mais il faut... Essayer de comprendre la part importante de crime, quoi, c'est l'intention. Moi, j'ai mis plus de 30 ans de travail sur l'intention génocidaire, l'intention du crime. Quoi. Donc, quand ils ne nous séparent pas, quand on nous coupe les racines avec la famille, avec les villages, avec le social, tout ça, c'est juste pour nous forger, quoi, dans le vocabulaire. C'est nous forger, nous transformer en autre chose. L'individu, ça n'a pas d'âme, quoi. N'a pas de personnalité. Ben, l'individu doit être forgé en quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, ceux qui sont plus faciles à forger sont les enfants. Les adultes, ils peuvent mourir, on peut les exécuter, mais les enfants, c'est les enfants de l'ANCA, c'est les enfants du parti. Donc, avec tout ça, je crois qu'ils ont aussi, pas seulement la structure sociale, hein, ils ont aussi travaillé le vocabulaire. Par exemple, c'est les mots, c'est l'importance des mots. Et voilà, dans tous les crimes de masse, les mots sont importants, l'idéologie est importante, ce soit de... Au Rwanda, on dit on coupe, vous voyez, on coupe les... Et maintenant, il y a un mot, le Khmer Rouge, c'était le titre du livre, l'élimination. Et j'ai entendu à la radio que Donald Trump a signé quelque chose pour détruire ou faire disparaître le ministère de l'Éducation et éliminer. C'est son vocabulaire. Et dans certains jeux vidéo aussi, moi j'entends mes petits-enfants qui disent « Niveau 134, éliminé voilà. ». C'est éliminé, oui, c'est pas seulement... Éliminé, ça va beaucoup plus fort que... Et ça revient, moi, l'élimination pour moi c'était très important. Chaque mot est très important. Maintenant, ce mot rattrape... La réalité revient encore. Voilà.
Je rebondis sur ce que vous avez dit. Douche, dans le livre L'élimination, dit, je cite, « On détruit l'ancien monde pour en construire un nouveau. On veut fabriquer une nouvelle conception du monde. Tous les totalitarismes veulent transformer et fabriquer une nouvelle conception du monde. » Au Cambodge de Pol Pot, comment ça s'est matérialisé?
C'est matérialisé par un échec. D'abord, tout le monde ne peut pas s'habiller en noir. Tout le monde ne peut pas tous couper les cheveux courts. L'humain, ça a ses propres personnalités, ses propres sa dignité, sa grâce. Chaque personne, j'ai toujours dit que chaque personne a sa propre grâce. C'est quelque chose qui lui appartient. Et là, dans ce coup, on n'a plus de beauté, il n'y a plus de grâce, il n'y a plus de personnalité, il n'y a plus de dignité. Tout le monde, il n'y a plus rien, quoi. Donc, tout, on doit se ressembler, on doit s'habiller tout en noir. Les cheveux doivent être coupés courts. Et on n'a plus de nom et prénom, mais on a un nom. Il faut que ça soit courte, en syllabe, quoi. Pap, je ne sais pas quoi. On nous juge depuis la couleur de peau jusqu'à la longueur des doigts. Si on a des doigts un peu fines, ça veut dire qu'on est bourgeois. Si on a des doigts un peu grands, etc., épais, ça veut dire qu'on est travailleur, ça veut rien dire du tout, tout ça. Donc c'est c'est très conceptuel, tout ça, l'égalité, tout ça. Moi je crois toujours qu'il y a une possibilité dans le pour les gens de vivre ensemble. Je crois que la société la plus juste, c'est peut-être que les plus puissants s'occupaient des plus faibles. Et là, il n'y a plus de faibles, il n'y a plus de puissants. Tout le monde est... Je ne sais pas. Je ne suis pas philosophe, mais par le vécu, je crois qu'on ne peut pas mettre tout le monde. Il faut qu'on prenne soin des plus faibles. Et là, c'était les plus faibles, il faut éliminer. Non, je ne sais pas...
Juste après la pause, Riti Pan, on parlera de vous, de votre témoignage, de comment vous avez survécu, et on s'attaquera à la philosophie profonde du régime cambodgien. Amis auditeurs, restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite, juste après ça. How do we save a life? Pointing fingers. How can we end the fight this way? The truth we're preaching and lies on what we're believing. No one ever wins when the goal is to settle the score. Grace was made for those who don't deserve.
us how to live humbly, love unconditionally, transform our hurt into hope, and grant us your peace.
Et amis auditeurs, vous venez d'écouter Ceasefire du groupe For King and Country, et nous retrouvons Ritipan. Ritipan, vous écrivez en 2025, vous rééditez en 2025 le livre L'élimination aux éditions Grasset, une discussion de vous, de votre témoignage personnel. Vous écrivez « À 12 ans, je perds toute ma famille en quelques semaines, tous emportés par la cruauté et la folie Khmer Rouge. J'étais sans famille, j'étais sans nom, j'étais sans visage. Ainsi, je suis resté vivant car je n'étais plus rien. » Que fait un enfant de 12 ans, Ritipan, quand il n'a plus rien et que ses proches meurent les uns après les autres?
Cet enfant-là, il a beaucoup de chance. Il n'a pas survécu parce qu'il est plus fort que les autres. Il a survécu peut-être parce que ses parents sont morts. Et il a peut-être pris la place de son frère. Il a survécu peut-être parce que ses amis l'ont soutenu. Moi, à chaque fois, par exemple, quand je... Ça, les gens croient ou croient pas. Hein. Mais à chaque fois que j'ai des problèmes, j'ai l'impression que ma mère est à côté de moi, qui me prend pas la main, dit ne reste pas là, quoi. Donc voilà, c'est toujours des. Moi, je crois que voilà, je suis aujourd'hui parce que j'ai pris la place de quelqu'un. Donc mon travail, c'est de rend à ces personnes-là leur histoire. Moi, j'aime pas trop dire les noms des morts, en fait. Pour moi, c'est chaque personne, chaque victime a un visage, un nom. Donc j'essaye de le rendre, un visage, un nom. J'essaye de raconter l'histoire au niveau des êtres, des humains. Qu'est-ce que c'est cet enfant de 12 ans? Bah, il est perdu. Il est... Il sait plus où il en est, mais peut-être le peu d'éducation que sa famille lui a donné, ou son père lui a communiqué, ou sa mère, le fait qu'il avait le réflexe de survie d'aller chercher au fond de lui-même quelque chose qui lui appartienne, que les autres ne peuvent pas le détruire. Je pense que les survivants, c'est ça, c'est quelqu'un qui a l'âge. La chance, le hasard, qui a s'accroché à un mot, à une image, une apparition, et qui le guide d'aller au fond lui-même et trouver un souvenir le plus pur, le plus tendre, le plus beau, et s'accrocher à ça. Au moment difficile, souvent, je m'éloigne et je parle, je chante une chanson que j'ai inventée. À ma mère, à ma famille, à mon frère. Je prends une mélodie de Michel Polnareff ou de B.G. ou peu importe, et je ne connais pas les paroles. Hein. Je mets mes mots à moi, quoi. Et je m'imaginais en couleur, porter des vêtements en couleur. Bon, ça, et après, je retourne. Je rêve à la lune. J'aurais aimé être astronaute, parce que ça, quand j'étais môme, on marchait sur la Lune. Donc, à mon âge encore, j'achète des swatchs, pour ne pas faire publicité, sur la Lune, quoi. Il y a une série de swatchs, parce que j'ai vu sur la Lune, puis... voilà, la Lune reste... Parce que la Lune vous indique une forme d'espoir, la Lune vous donne le temps, l'enfant n'a plus de temps. Il n'y a plus de calendrier, et une pleine lune, c'est une pleine lune, quoi. Un cycle de lune, c'est la moitié de mois, ou un mois, ou c'est comme ça qu'ils maintiennent en vie. Donc voilà, c'est ces petites choses-là, ce sont des... Ceux qui sont disparus, qui vous communiquent, qui vous le donnent, c'est pas un cadeau, c'est plus qu'un cadeau, c'est une sorte de générosité que nous devons avoir nous aujourd'hui. Ce qui me gêne aujourd'hui, c'est ça, en fait. C'est la disparition de l'empathie, de la générosité, de l'empathie, quoi. Ça me gêne énormément. Parce que, même moi, hein, il m'arrive que il faut parfois que je me force pour aller acheter des sandwichs offrir à quelqu'un qui n'ont pas à manger, quoi. Normalement, je ne dois pas me forcer. Normalement, ça doit être naturel, non ? Il faut que je m'entraîne pour que je puisse avoir une idée positive de chaque jour. Voilà, en me réveillant, qu'est-ce que c'est de positif, quoi.
Dans votre livre « L'élimination », vous dialoguez avec Douche, responsable du camp S21, idéologue convaincu et formateur de la machine à mort Khmer Rouge. Que retirez-vous de ce face-à-face avec cet homme qui a des milliers d'âmes et des milliers de vies sur la conscience ?
Je disais souvent que Deutsch, c'est un humain, quoi. C'est pas un comme vous et moi, quoi. C'est un homme comme vous et moi, c'est pas un monstre. Faut pas le considérer comme un monstre. Donc il a toute sa personnalité, sa pensée, et le régime Khmer Rouge est dedans, et dans son côté méticuleux, côté pureté, côté intransigeant. Il n'aime pas Picasso, parce que pour lui c'est l'art dégénéré, il préfère Michel-Ange, c'est plus propre, plus clean, voilà. Il n'aime pas les différences, il faut que ce soit la pureté des choses, voilà. Et c'est un instrument, il le dit lui-même, c'est un instrument pur de l'encart, voilà. Et encore une fois, ce que je cherchais, c'est juste démontrer ce que c'est cette intention, ce que c'est cet instrument pur de l'encart, quoi. J'ai commencé déjà il y a plusieurs années, dans les années 2000, je crois, j'ai passé 2 ou 3 ans à S21, sans lui, parce que j'ai pas pu avoir la permission de le voir. Donc, je fais un film sur S21. Au début, j'ai commencé par plusieurs prisons, mais à la fin, je m'arrêtais à S21, parce que j'ai vraiment envie de démontrer que S21, voilà, au milieu de Phnom Penh, cet centre S21 où on exécutait plus de 20 000 personnes, où on arrêtait un prisonnier exécuté, pas seulement les gens du parti, mais aussi les autres, les innocents, ceux qui rentrent de France, les professeurs, les intellectuels, pas seulement la purge interne. Je pense que deux ou trois ans après, quand j'ai fini, Khieu Samphan, qui est président, enfin chef de l'État du Cambodge de l'époque, a reconnu que S21 est un instrument de l'État. Voilà. Voilà, mon travail, c'est ça, c'est d'arriver à définir ce que c'est un crime.
40 ans plus tard, le Cambodge a-t-il guéri de cette blessure, Ritipan ?
Je pensais qu'on pouvait aller plus vite, mais non. Non, ça, il faut beaucoup plus de temps, ça va arriver, ça va venir, mais je répète souvent à la génération, j'ai une génération maintenant qui regarde mon travail, avant personne ne regardait mon travail, hein. Maintenant si, il lit, il regarde, on a besoin d'écrire avant de tourner les pages. Voilà, on ne peut pas tourner les pages vides, on est amnésique.
Et vous, qu'est-ce que ça vous apporte de témoigner, de donner votre vie justement pour porter ce combat ?
Oh, moi, je l'ai fait d'une personne m'obligeait. je fais certainement pour me sauver aussi, parce que, comme je vous ai dit, si je pouvais oublier, je serais heureux, content. Mais c'est pas parce que vous parlez que vous sentez mieux après, hein. Moi, je conseille pas comme ça, je suis pas un psy, quoi. Ça se trouve qu'après avoir parlé, vous sentez même pire qu'avant, quoi. Voilà, vous voyez, on sait pas. Donc je propose un instrument comme un instrument de travail. Et est-ce que je me sens mieux qu'avant? J'espère.
Merci beaucoup, Ritipan, auteur de L'élimination, co-signé avec Christophe Bataille et réédité aux éditions Grasset en 2025. Et merci à vous, amis auditeurs, d'être toujours fidèles, d'être toujours là. Je vous souhaite une excellente semaine, que la paix soit avec vous sur les ondes de Radio Notre-Dame et RCF.